innovation as a key driver of its economy.
D'entrepreneur, on parle innovation.
Investigation, más desarrollo, más innovación.
Vous écoutez les échos de l'innovation.
Vous écoutez les échos de l'innovation.
Bienvenue à toutes et à tous sur la Radio Graphite. Vous êtes bien dans les échos de l'innovation, l'émission qui décortique les grandes questions technologiques et sociétales de notre époque. Aujourd'hui, on va vous parler des discours scientifiques et nous étendre sur leur impact sociétal. Plus précisément, on va se poser la question suivante. Comment la vulgarisation scientifique améliore-t-elle la compréhension des enjeux complexes par le grand public ? On va parler de la vulgarisation scientifique en commençant par discuter de pourquoi on devrait vulgariser, de comment, si on peut vulgariser. Et à la fin, on pourrait se poser la question de si cette méthode de vulgariser la science a des limites ou si ça peut poser problème à un moment ou si ça fonctionne bien au contraire. Pour enrichir notre réflexion, on a autour de la table une équipe d'étudiants au parcours différent, mais non moins passionnant. Tous issus de l'Université technologique de Compiègne, aussi appelée UTC dans notre petit jargon. D'abord, Amaury, étudiant en deuxième année de tronc commun, qui est la prépa de l'UTC en gros.
Bonjour à tous et merci Colin pour l'invitation.
On a aussi Roxane, qui est en première année du tronc commun.
Bonjour à tous, merci de nous écouter, merci d'être là.
On a Exaucé, qui est lui en branche, un petit peu plus âgé, qui est en génie des procédés.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous sur ce plateau, et merci Colin pour cette opportunité.
Mais de rien. Et on a Camille, qui elle également est en génie des procédés.
Bonjour à tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous en direct aujourd'hui. Merci encore une fois Colin, actuellement dans la même branche qu'Exaucé et moi-même, de nous avoir réunis ici pour cette émission.
Et de rien. Merci à tous les quatre d'être avec nous aujourd'hui. On va partager du coup nos perspectives sur le sujet que je viens de présenter. Et sachez que cette émission a également lieu dans le cadre d'une matière que nous abordons au cours de ce semestre, dans laquelle on apprend à débattre de science aujourd'hui. Donc pour faire dans l'exactitude, l'intitulé de la matière, c'est « Science et débat public ». On explore les faits scientifiques et leur impact sociétaux de nos jours. On fait notamment un débat et des émissions de radio, comme celle que vous écoutez actuellement. En conclusion, préparez-vous une émission riche en échanges, où la science et la société se rencontrent. C'est parti pour l'émission des Échos de l'innovation, qui va parler de la vulgarisation scientifique.
Merci Colin pour cette introduction et ce générique reconnaissable entre mille. Aujourd'hui, nous allons parler de la vulgarisation scientifique. En d'autres termes, traduire le langage souvent complexe des chercheurs en langage normal, celui que vous, moi, simples moldus, pouvons comprendre. Alors, pourquoi vulgariser la science ? Pourquoi joue-t-elle un rôle important dans notre quotidien ? Le célèbre vulgarisateur Bruce Benham de la chaîne YouTube Y Penser, lors d'une interview avec Jamie de C'est pas sorcier, dont vous venez d'entendre le générique, a pu justement expliquer une de ses raisons qui a pu le faire passer d'informaticien à vulgarisateur. Je vous propose donc d'écouter une des raisons principales de ce bouleversement de carrière.
De plus en plus de gens sont persuadés qu'ils savent d'autres choses.
J'aime bien quand tu dis qu'il y a plein de choses que les gens ne savent pas, comme nous d'ailleurs, et que notre job nous permet d'apprendre des choses. C'est un peu le sel de notre métier, ça, d'apprendre. Faire en sorte d'expliquer, bien sûr, de transmettre, mais de faire partager, de partager ce plaisir qu'on a eu.
Ouais, moi je pense que ce qui est super important, je pense, c'est vraiment que le grand public. Je m'inclus dans le grand public, évidemment, monsieur, que le grand public...
Nous incluons.
Oui, mais c'est que le grand public n'ait plus peur de dire « je ne sais pas » et retrouve ce plaisir à chercher le pourquoi.
Je t'avais parlé de...
Merci donc à Bruce et Jamy d'avoir partagé l'enjeu majeur au fait de devenir vulgarisateur, à savoir le souhait de partager ses connaissances scientifiques au grand public et d'attiser leur curiosité. Tout le monde est un jour amené à vulgariser ses propos, que ce soit à l'école, lors d'un exposé, ou au travail, dans le cadre de réunions avec son boss. Mais avez-vous remarqué que nous n'utilisons pas les mêmes méthodes pour essayer de nous comprendre les uns les autres ? Mais surtout, pourquoi ? Par exemple, les médecins utilisent des mots trop compliqués pour nous, alors qu'entre médecins, ils arrivent forcément à se comprendre. Le point commun de tout cela est ce qu'on appelle des connaissances scientifiques. Car sans bagage suffisant, un peu compliqué de s'entendre. Le fait de vulgariser n'importe quelle science permet de rendre accessible n'importe quel sujet et ainsi la démocratiser. Chacun a le droit de s'informer et de comprendre les découvertes qui façonnent notre quotidien, indépendamment de son niveau d'éducation. Il faut savoir que la science est partout autour de nous, même si parfois on ne s'en rend pas forcément compte. Elle peut paraître des fois compliquée, avec des concepts abstraits, où beaucoup d'entre nous se sentent un peu à l'écart parfois. Cependant, la science, ce n'est pas seulement des blouses blanches, ni des mots incompréhensibles comme le GERC, qui signifie la dérivée temporelle de l'accélération, qui, je pense, ne vous servira pas au quotidien. Mais ça peut être tout simplement pourquoi votre chat souhaite sortir de votre chambre, mais refuse que la porte soit fermée. Finalement, la science, ça nous concerne tous et toutes, même si on n'a pas de diplôme en physique quantique. Sans vulgarisation, ce serait la fête aux fake news. On connaît tous cette fameuse théorie du complot, comme quoi la Terre serait plate. Cette théorie a été longuement mise sur le tapis, notamment depuis l'Antiquité. Cependant, avec certaines connaissances scientifiques, principalement avec l'aide de Pythagore et Aristote, ils ont pu démontrer, avant même d'aller dans l'espace, que notre Terre est bien ronde. Ce cas concret met en lumière le fait que la vulgarisation peut être une véritable arme contre la désinformation et les idées infondées. En partageant des faits et des explications claires, on aide à faire le tri entre vérité scientifique et idées reçues. De nos jours, les vrais vulgarisateurs doivent opter pour des solutions simples, essayant de gagner la confiance du public et donc transmettre leur savoir sans difficulté. Dans notre monde rempli de méfiance envers les scientifiques, malheureusement, les vulgarisateurs sont donc obligés d'être le plus transparent possible pour essayer de paraître crédibles à leurs yeux. Les décisions majeures touchant des enjeux, comme le climat ou la santé publique, sont essentielles. Donc comprendre la science permet à chacun de faire des choix plus éclairés et responsables. La vulgarisation scientifique a été importante, par exemple, durant la crise du Covid, qui a pu permettre de freiner cette fameuse contamination. Mais justement, cette confiance ne peut-elle pas engendrer des abus de pouvoir, par exemple ? J'ai une question à vous autour de la table. Selon vous, est-ce une nécessité de vulgariser la science dans notre monde où celle-ci est synonyme de pouvoir ?
Alors, c'est vrai que dans le passé, la science était détenue par des savants qui étaient considérés comme des élites. Donc, tu as cité par exemple Pythagore et Aristote. C'est vrai qu'ils étaient très reconnus à leur époque comme de grands savants possédant de grandes connaissances scientifiques. Mais de nos jours, il est de plus en plus important de démocratiser la science dans notre monde, dans un monde où les décisions politiques sont de plus en plus influencées par des avancées scientifiques. Je prends l'exemple du changement climatique ou de l'intelligence artificielle. Des décisions politiques sont mises en place, sont votées dans les assemblées afin de mettre par exemple des réglementations en place. Donc pour moi, je pense qu'il est important justement de démocratiser cette connaissance afin que toute la population puisse participer au débat public en connaissance de cause.
Effectivement. Bien que la science, la connaissance scientifique soit une source de pouvoir et de progrès, mais aussi cette connaissance scientifique peut avoir des conséquences néfastes. C'est l'exemple de la pollution de l'environnement causée par le lancement des fusées. Ainsi donc, en rendant ces enjeux compréhensibles, la vulgarisation permet aux citoyens d'y prendre conscience.
Oui, c'est vrai que je vous rejoins là-dessus. Je pense que quand les personnes, elles sont conscientes des problématiques, non pas, notamment là, on prend le climat parce qu'on sait que ça nous touche tous, en comprenant réellement les problématiques, et ça de part grâce à la vulgarisation, c'est plus facile d'agir, et c'est parce que forcément, on va plus facilement se sentir concerné. Pour intéresser les gens, je pense qu'il faut avant tout qu'ils comprennent de quoi on parle. Et je trouve finalement que la réelle nécessité, elle est née il y a bien longtemps, parce que l'accès aux connaissances, elle peut aider à remettre en question des idées reçues véhiculées dans un entourage. En fait, il faut revenir pour moi à la philosophie des Lumières, parce que apporter la connaissance pour lutter contre l'obscurantisme. Et je trouve important de rappeler aussi que dans notre monde, le savoir, c'est le pouvoir.
Je te rejoins un petit peu sur cette question de pouvoir du savoir, mais ça dépend aussi des sujets qui sont abordés. Il y a beaucoup de sujets où ça va être pas forcément le savoir qui va être le pouvoir. Le savoir va passer outre certaines conditions économiques, etc., etc. Mais dans le cas les cas classiques qu'on a pu prendre, donc de la fake news hein, à son plus classique exemple. On peut parler notamment de la théorie de la Terre plate, c'est assez connu. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la Terre est plate. S'il y avait la vulgarisation scientifique, après je ne dis pas qu'ils vont changer d'avis, c'est des gens qui peut-être ont un avis très posé sur la question, mais s'ils avaient une vulgarisation scientifique claire, quelque chose qui ne demande pas de base scientifique, peut-être qu'ils auraient un changement d'avis sur la question, peut-être que ça permettrait d'informer mieux sur le fonctionnement de choses aussi importante que notre Terre, même l'écologie. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées reçues sur l'écologie et qui changeraient avec ce pouvoir que tu appelles la science, donc la vulgarisation. Voilà, donc pourquoi éventuellement vulgariser ?
Exactement, moi je suis d'accord avec toi Colin sur le fait que vulgariser, ce serait peut-être donner beaucoup plus d'informations et changer un jour les opinions sur certains sujets, notamment le réchauffement climatique. Après, il ne faut pas oublier que vulgariser la science, ce n'est pas toujours aussi simple. Souvent, nous essayons de simplifier nos propos pour essayer de se faire comprendre au maximum. Cependant, rares sont les cas dont notre audience capte du premier coup. Je pense qu'on a tous vécu ça. En essayant d'aller trop loin dans nos explications, on peut risquer de perdre la personne d'en face. Justement, nous allons vous en parler dans une prochaine séquence concernant les différentes méthodes de vulgarisation. Mais on peut se le dire clairement que vulgariser, c'est un art. Ironiquement, des thésards de l'UTC, dont nous sommes tous issus de cette même université, ont eu la possibilité l'année dernière de suivre un cours de vulgarisation scientifique via l'art visuel avec Sophie Lebeau, illustratrice. Pardon. Nous allons vous passer un extrait d'une vidéo YouTube disponible sur la chaîne du UTC sur ce sujet, avec le témoignage d'un futur doctorant, on l'espère, sur une thèse concernant les voitures autonomes.
Facile à retranscrire parce que c'est sur les voitures autonomes. Mais du coup, j'ai essayé d'avoir une approche qui soit un peu différente et utiliser plus d'autres manières de comparer un peu ma thèse, de faire des métaphores un peu différentes. Et du coup, ça fait que j'ai un peu une vision, je pense, un peu différente sur ma thèse.
Le second objectif, c'est aussi pour les doctorants de redonner du sens à leurs travaux.
Dans cet extrait, le jeune doctorant nous a donc expliqué que le fait de vulgariser sa thèse a pu changer sa vision de celle-ci. Ceci peut être expliqué par le fait qu'une bonne vulgarisation peut mener à une aventure humaine, cherchant à comprendre le monde et ainsi modifier sa perspective sur un sujet. La science peut donc être synonyme de curiosité et de fun. Par exemple, savez-vous que dans l'espace, les astronautes peuvent gagner jusqu'à 3% de leur taille ? C'est énorme. Cet effet, malheureusement, s'estompe quelques mois après. Cette info ne va pas faire de vous des scientifiques, qu'on se l'accorde. Mais c'est toujours cool de sortir ça à Noël. On paraît toujours plus intelligent. Quand on vulgarise la science, on ne se contente pas de transmettre des connaissances. On aide à construire une société plus informée. Ça permet à chacun de mieux comprendre le monde et prendre des décisions réfléchies et d'inspirer les générations à venir. Que ce soit à travers des livres, des vidéos YouTube, des conférences ou des émissions comme celle-ci, chaque effort pour rendre la science accessible compte énormément. Souvenez-vous, si un jour, quelqu'un vous dit que la science, c'est compliqué, eh bien tout simplement répondez-lui, pas avec un bon vulgarisateur. Sur ce, restez curieux, rester ouvert.
Merci, merci Camille. Je ferai en sorte de rester ouvert, je te le promets. Je te remercie pour ces précieuses informations. Moi, je vais me permettre de parler d'idées sur la Terre plate tout à l'heure, par exemple. Je vais me permettre de donner des exemples de vulgarisation pour des enjeux complexes, en fait. Il y a des choses en science qui sont très complexes, qu'on n'arrive des fois pas à expliquer, du moins simplement. Et en fait, ces exemples de vulgarisation permettent de faire comprendre tout au moins la base à des gens qui n'y connaissent rien. J'ai deux exemples là à vous proposer. C'est d'abord le premier assez connu, même le plus connu sûrement, le chat de Schrödinger. Donc ça a été imaginé par Monsieur Schrödinger qui a dit si l'on met dans une boîte un chat avec une source radioactive ou quelque chose qui serait capable de potentiellement le tuer et qu'on fermait cette boîte, on ne saurait jamais vraiment si le chat est mort ou vivant à l'intérieur de la boîte. L'idée, c'est de dire que ça représente vraiment la physique quantique, ici, c'est d'expliquer la différence entre la physique classique donc de qu'on connaît en général assez bien, et la physique quantique où on fonctionne sur des raisonnements où on ne sait plus trop comment ça fonctionne. Il n'y a plus de règles à proprement parler. Un autre exemple que j'ai aussi, c'est celui de la bibliothèque de Babel. Alors, il y a un ouvrage qui s'appelle « La bibliothèque de Babel » qui présente un peu cette idée. En vérité, la bibliothèque de Babel, c'est une bibliothèque dans laquelle on recenserait tous les ouvrages existants qui auraient existé auparavant et qui pourraient exister dans le futur. Donc ça peut être d'un ouvrage de gribouillage d'enfants à un ouvrage sur des thèses, à un ouvrage sur des émissions de radio. Donc en fait, c'est un potentiel infini de création de livres. Et je pense que c'est un bon exemple pour expliquer à des enfants le concept même d'infini. C'est que, en fait, il y a « Ah, j'ai une idée, ah, j'ai une idée, ah, j'ai une idée. » Et donc, on explique que, en fait, ça ne s'arrête jamais, que le nombre de livres est infini, et que donc, l'enfant comprend que, on peut arriver sur quelque chose qui ne se termine jamais. Donc voilà, c'était mes exemples de vulgarisation complexe. Vous êtes toujours sur Graphite, vous écoutez toujours les échos de l'innovation. Et on parle de vulgarisation scientifique. D'ailleurs, je crois, Amaury, que tu as une idée particulière pour parler de la vulgarisation.
Oui, c'est tout à fait ça, Colin. Du coup, j'ai eu l'idée d'interviewer un professeur de l'UTC pour qu'il nous donne son point de vue en tant que professionnel sur la manière de vulgariser la science. Donc, j'ai donc eu l'opportunité de poser quelques questions au professeur Uldris Aïssa du département TIMR, donc c'est l'abréviation de Transformation Intégrée de la Matière Renouvelable, du Centre de Recherche de l'UTC. Il est donc enseignant à l'UTC, mais également chercheur en procédés thermochimiques de valorisation de la biomasse végétale, ainsi qu'en technique de détermination des fonctions de distribution des temps de séjour, mais également en filtration tangentielle avec des diplômes en doctorat et d'habilitation à diriger des recherches. Alors oui, tous ces termes peuvent paraître abstraits pour des non-spécialistes, d'où l'utilité de la vulgarisation. Le professeur Uldris explique cela en argumentant que la quasi-totalité des projets de recherche financés sont pleinement ancrés dans une réalité et portent souvent sur des problématiques qui ont une portée sociétale ou socio-économique. Il est donc facile d'expliquer ces problématiques dans leur finalité, mais il n'est pas toujours aisé d'expliquer la démarche scientifique adoptée. Il insiste sur la difficulté de synthétiser la méthodologie de recherche face à un public non averti et ne possédant pas les prérequis pour comprendre en entièreté le sujet. Pour captiver l'attention, cet enseignant-chercheur utilise certaines méthodes afin de vulgariser. Dans la mesure du possible, il est important de présenter l'enjeu pour susciter l'intérêt en faisant des rapprochements avec des exemples de la vie de tous les jours. Je passe donc la parole à Roxane qui va maintenant nous expliquer les étapes de la vulgarisation. Nous t'écoutons, Roxane.
Merci Amaury. Alors oui, c'est vrai que de nombreuses techniques ont été développées ces dernières années sur cet art qu'est la vulgarisation. On rappelle bien que c'est un art, que c'est pas inné chez tout le monde, et loin de là. Alors j'ai choisi de vous parler d'une technique particulière mise en avant par Agent Majeur, une agence de communication scientifique créée en 2008, celle des 6 C pour clarté, connexion, contexte, concret, couleur et conversation. Alors pourquoi la clarté ? Tout simplement parce que c'est un principe fondamental. Lorsqu'on s'adresse à un public qui n'en connaît pas autant que nous sur un sujet particulier, il est important d'être vigilant avec les mots de jargon, qui sont des mots très courants entre experts, mais inconnus ou mal compris par des non-spécialistes. Il faut aussi structurer son discours, hein, ce qui va permettre de mieux garder l'attention du public, qui ne va pas se perdre dans nos propos et garantir une meilleure compréhension. Faire attention aux acronymes est aussi important, hein. Par exemple, PCR ne signifie pas la même chose dans tous les domaines. Et enfin, aller du plus simple vers le plus compliqué, du plus généraliste vers le plus spécialisé. Par exemple, pour définir le basalte, le volcanologue, Jacques-Marie Bardin-Zeff, explique d'abord que c'est juste une roche volcanique noire, puis va vers des informations plus complexes sur notamment comment est-ce que le basalte se forme ou de quoi est-ce qu'il est composé. Ensuite, en deuxième mot, la connexion. En effet, nos émotions jouent une part très importante dans nos décisions, nos réactions. Il est intéressant de les utiliser en vulgarisation scientifique pour créer une connexion avec votre public. Vous pouvez par exemple essayer de le surprendre, le faire rire, l'épater, voire même lui faire peur. Le travail s'intègre aussi dans un contexte qu'il convient d'éclaircir quand vous faites de la vulgarisation scientifique. Il faut citer les enjeux scientifiques, sociaux, économiques, voire même culturels. L'auditoire ne se rend pas forcément compte de la proximité entre ces problématiques et le travail scientifique. Des applications dans son quotidien, que ce soit son quotidien de demain ou dans 10 ans, peuvent être aussi intéressantes à évoquer. Enfin, il faut aussi à tout prix éviter d'être abstrait. Il faut rester concret. Pour ça, on peut utiliser par exemple des échantillons ou des maquettes à montrer, mais aussi illustrer des propos avec des exemples. Par exemple, quand on évoque des chiffres, il est intéressant de les rapprocher à des notions qui parlent à l'auditoire. 6 fois la vitesse de la lumière est bien plus facile à comprendre que 1 798 754 748 mètres par seconde. En effet, il y a aussi, par exemple, l'Office national des forêts qui, pour expliquer l'importance de la photosynthèse, utilise cet exemple-là. Un arbre de 5 mètres cubes peut absorber 5 tonnes de CO2. Alors jusque-là, on ne se rend pas forcément compte de ce que c'est que 5 tonnes. Et en fait, c'est l'équivalent de 5 vols aller-retour Paris-New York. Il est important de colorer son propos. Alors, je m'explique. Il faut s'appuyer sur des images qui peuvent être des graphiques, des vidéos, des schémas, mais aussi des images au sens figuré. On peut utiliser des analogies, des métaphores pour visualiser dans son esprit ce qu'on dit et donc colorer nos propos. L'analogie, c'est la similitude, la ressemblance entre deux ou plusieurs objets de pensée différents. Elle permet de rapprocher un terme simple d'un terme plus complexe pour faciliter la compréhension. Et enfin, il faut de la conversation. Le public adore participer. La population adore donner son avis. Il faut donc engager la conversation ou prendre des petits temps de questions-réponses, ce qui est très important et ce qui d'ailleurs sera autant intéressant pour le public que pour la personne, que pour le vulgarisateur, qui pourra en apprendre beaucoup du public. Alors finalement, on pourrait dire que les vulgarisateurs sont à la science, ce que les traducteurs sont à la littérature. Vous l'aurez donc compris, ces 6 mots-clés sont une base importante pour réaliser une bonne vulgarisation. Mais n'oubliez pas que cet art n'est pas une science infuse. Il faut avant tout savoir s'adapter à son public, à son âge, à sa catégorie socio-professionnelle, etc. Mais cet art s'apprend. On se trompe, on se corrige et on recommence.
Alors, merci Roxane pour ces explications qui, je l'espère, vous permettent d'y voir un peu plus clair sur la méthode de vulgarisation. Je vais maintenant illustrer ces propos à l'aide d'un TikTok du compte Curieux. Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas cette application, je vais vous expliquer rapidement en quoi cela consiste. TikTok est une interface de partage de vidéos courtes, allant généralement de 15 secondes à 3 minutes. Le principe de ce réseau social repose sur une interface très dynamique où les utilisateurs peuvent naviguer sans effort entre les vidéos grâce à un fil d'actualité personnalisé et alimenté par un algorithme basé sur les préférences des utilisateurs. Nous allons donc écouter un post du compte Curieux sur TikTok qui se concentre sur l'explication de concepts scientifiques de manière simple et visuelle.
Des tempêtes solaires ont régulièrement lieu à la surface du Soleil. Mais est-ce que tu sais ce que c'est et est-ce que c'est dangereux pour l'homme ? En gros, il s'agit de perturbations à la surface du Soleil qui peuvent se présenter généralement sous deux formes, les éruptions solaires et les éjections de masse coronale. Pour les éruptions, il faut comprendre que le Soleil est recouvert d'un réseau de champs magnétiques qui peuvent s'entremêler entre eux. Une tension magnétique peut alors se former, puis se démêle d'un coup, libérant un rayonnement électromagnétique. C'est ça l'éruption solaire. Et pour les éjections de masse coronale, il s'agit de de l'expulsion massive de plasma et de champs magnétiques de la couronne solaire à cause de perturbations dans le champ magnétique du Soleil. Et que ce soit les rayonnements magnétiques ou les EMC, bah ça arrive un moment sur Terre. Heureusement, le champ magnétique terrestre est là pour nous protéger, sinon on serait foutu. Mais quand les tempêtes solaires sont fortes, il peut y avoir des conséquences. Déjà, il y a les aurores boréales qu'on connaît bien, mais quand l'intensité est encore plus forte, ça peut causer des perturbations des radios ou des satellites, et là, c'est un peu plus la galère.
Donc voilà, nous pouvons donc entendre dans cette courte vidéo une explication claire et dynamique d'un concept qui peut paraître complexe pour nos auditeurs, pour les non-spécialistes également. Mais comment l'auteur a-t-il réussi à faire cela ? Pour ce faire, le créateur utilise un ton familier et des mots simples pour expliquer le phénomène des tempêtes solaires. Plutôt que d'entrer dans les détails techniques comme le terme d'éjection de masse coronale que nous avons entendu dans l'audio, il parle d'expulsion massive de plasma à la surface du Soleil. Il utilise également des métaphores en expliquant l'origine des éruptions solaires. Je cite « Le Soleil est recouvert d'un réseau de champs magnétiques qui peuvent s'entremêler entre eux ». Donc cette métaphore permet d'y voir un peu plus clair et de mieux comprendre le concept d'éruption solaire. Malheureusement, nous sommes à la radio, donc il n'est pas possible pour vous de voir les illustrations visuelles de ce TikTok. Je vous laisse aller sur le compte TikTok de Curieux pour cela. Mais à l'origine, des animations simples montrent des particules solaires voyageant vers la Terre, ce qui aide à visualiser un processus invisible à l'œil nu. Sur les réseaux sociaux, ces visuels sont cruciaux pour capter l'attention rapidement. Pour finir, le titre est accrocheur et attire l'attention des utilisateurs. J'ai donc parlé de TikTok, mais qu'en est-il de l'influence de ces réseaux sociaux sur le phénomène de vulgarisation ? Roxane, peux-tu nous donner ton avis ?
Alors oui, Amaury, c'est vrai que ce réseau social est une vraie aubaine pour les vulgarisateurs. Le numérique a considérablement améliorer l'accessibilité à l'information scientifique. Les nouveaux médias offrent en effet un accès rapide et facile à une grande variété de contenus scientifiques. Ces plateformes, désormais ancrées dans nos quotidiens, permettent de toucher un maximum de public en un minimum de temps. Les avantages sont nombreux, hein. Une réelle interactivité, des supports multimédia variés, des plateformes collaboratives, une adaptation aux tendances du moment, des cours en ligne ouverts à tous et encore une démocratisation de la production des contenus. Cependant, ces nouveaux médias ne contrôlent pas leur visibilité. Cela a des points positifs, bien entendu, mais cela veut aussi dire que les vulgarisateurs ne savent pas à qui ils s'adressent. Or, comme je vous l'ai expliqué précédemment, nous avons vu que l'adaptation au public est un enjeu clé, sinon primordial, à une bonne vulgarisation. De plus, ils enferment l'utilisateur dans une bulle de filtre. Si la vulgarisation ne vient à se faire que grâce aux nouvelles technologies, cela apporterait alors un véritable enjeu social, car toute la population n'aurait donc pas un accès similaire aux connaissances. D'autres enjeux peuvent aussi être évoqués, hein, comme le rôle de l'intelligence artificielle dans tout ça, ou encore la surcharge d'informations, ou juste discerner le vrai du faux. Alors finalement, est-ce que vous pensez que les médias modernes sont bénéfiques à la vulgarisation de la science ?
Je vais essayer de donner une réponse à ta question. On a l'exemple, par exemple, d'Amaury qui a pris du coup un compte TikTok pour expliquer les éruptions solaires, etc. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui s'informent par les médias modernes, les réseaux sociaux notamment, et qui du coup utilisent ça comme moyen d'information vérifié, en fait, je pense. À leurs yeux, pour eux, c'est vraiment « Ah, j'ai appris un truc, quoi ». Mais il y a aussi le danger d'avoir de la désinformation ou de la mauvaise information vis-à-vis de ces médias utilisés. Donc si une mauvaise information est passée sur un média comme celui-ci, ça va être relayé à une grande échelle et il y a beaucoup de gens qui vont avoir une mauvaise information et où du coup on peut risquer de vraiment aller sur quelque chose de plus dangereux ou du coup... Au lieu d'avoir une vulgarisation qui va aider à informer, on va faire le chemin inverse, finalement.
Effectivement, les médias modernes sont bénéfiques à la vulgarisation scientifique, dans la mesure où ils permettent d'accéder à l'information en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où que nous soyons. Et le seul inconvénient est, comme venait de le dire Colin, une fausse information peut très vite se répandre.
Tout à fait exaucé et cool. Hein. Justement, on a eu le cas lors du Covid-19. On a pu voir des fake news avec des vidéos virales affirmant que les vaccins contre le Covid-19 modifient l'ADN. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais justement, des scientifiques ont pu démontrer que c'était complètement l'inverse.
Oui, et puis c'est vrai, avec cet accès à l'information qui peut être assez facile, du coup, les gens peuvent avoir aussi tendance à se prendre tous pour des scientifiques. Comme tu disais, Camille, c'est vrai que pendant le Covid, il y a justement eu cette vague où, oui, on parlait que de science, on parlait que de ça, mais ça nous était vulgarisé, on n'avait pas non plus tous les détails, et heureusement. Mais les gens avaient tendance à se dire, ça y est, c'est bon, je suis scientifique, je connais tout. Et c'est vrai aussi, quand je repense aux IA, qu'on ne peut pas, si on lui demande une question, nous expliquer un phénomène, mais en version simplifiée, on ne peut pas être sûr à 100% de la véracité de l'IA. Hein. L'IA, moi-même, je l'ai déjà utilisée pour m'aider à comprendre certaines notions dans mes cours de maths, et elle s'est trompée, l'IA, donc on n'est pas sûr à 100% de ce qu'elle dit, donc c'est vrai que ça peut être dangereux de se fier à ça pour la vulgarisation.
Je suis un peu d'accord avec toi sur ça. T'as parlé de gens qui pouvaient éventuellement utiliser ça pour donner des informations alors qu'ils sont pas forcément compétents pour les donner, en fait, ces informations. Alors c'est un exemple assez personnel, mais j'ai un ami qui a ouvert justement une chaîne TikTok et une chaîne YouTube du même nom où il partageait des informations scientifiques parce qu'il était en études de médecine et du coup il donnait beaucoup d'informations en lien avec les études qu'il faisait, en fait. Je doute pas du fait qu'il donnait des bonnes informations forcément, mais je me dis que si un étudiant en médecine plus ou moins lambda peut se décider à commencer à publier des contenus scientifiques, c'est que un peu tout le monde peut publier des contenus scientifiques et la vérification de l'information derrière, elle est nulle, c'est le néant finalement. Donc on a vraiment ce risque, même qu'un détail de l'information soit erroné, en fait. Donc on peut facilement perdre dans la vulgarisation le détail et l'importance du détail dans les faits scientifiques.
Effectivement, dans tout ce qui est aspect négatif des médias modernes, on oublie généralement les inégalités. Par exemple, dans certaines régions rurales d'Afrique ou d'Asie, où l'accès à Internet est limité, des millions de personnes n'ont pas la possibilité de bénéficier des plateformes éducatives comme YouTube. Alors nous, on s'en rend pas forcément compte, car en France, l'accès à Internet est totalement démocratisé, totalement libre. Mais dans certains pays défavorisés, ça peut créer des grosses inégalités, des gros écarts.
Je suis un peu d'accord avec toi. Je vais pas rebondir sur ce que tu viens de dire, on va arrêter cette question. Très bonne question de la part de Roxane, je te remercie pour l'avoir posée. Je pense qu'on a eu pas mal de réponses pour argumenter le sujet. Et je vais vous proposer, en fait, pour vous laisser un petit peu respirer, une nouvelle pause de vulgarisation complexe. Donc, comme tout à l'heure, je vais vulgariser deux exemples complexes et on va voir du coup un peu des utilités de vulgarisation possibles. Le premier, c'est le paradoxe des jumeaux. Imaginons deux jumeaux, l'un reste sur Terre, tandis que l'autre part en voyage spatial. Il a une fusée très performante, car cette fusée voyage à la vitesse proche de celle de la lumière. Donc il fait un aller-retour à une distance très éloignée, à des années-lumière d'ici. Si le jumeau voyageur part plusieurs années à cette vitesse et revient, il sera plus jeune à son retour que son frère qui est resté sur Terre. C'est un exemple de la théorie de la relativité d'Einstein. Et donc cet exemple simple, hein, en prenant deux jumeaux, donc ils ont le même âge, nés à la même heure au moins. Et s'il y en a un qui entreprend ce voyage supraluminique, donc à la vitesse de la lumière quasiment, il va avoir un âge vraiment différent de son frère au retour. Donc ça, c'est un des exemples de vulgarisation. Deux choses complexes, donc théorie de la relativité. Un autre, c'est un exemple un petit peu plus sur la pensée, c'est le bateau de Thésée. Supposez que vous ayez un bateau en bois, que vous remplacez progressivement chaque planche par une nouvelle. Une fois toutes les planches remplacées, est-ce toujours le même bateau? Alors c'est une question un petit peu plus philosophique à ce niveau-là. Si vous avez construit un second bateau avec les planches d'origine, lequel serait le vrai bateau de Thésée? Celui qui a gardé les planches d'origine, le l'ancien, où on a remplacé planche par planche, ça pose un peu des questions sur l'âme, l'esprit, l'identité des gens. Hein, et si on se fait remplacer un cœur, est-ce qu'on est toujours la même personne ? Ça peut poser des questions comme ça. Et en fait, ça ouvre un sujet. C'est aussi un des impacts pour moi de la vulgarisation, c'est d'ouvrir cette idée à des gens qui n'y connaissent pas forcément rien, mais qui n'ont pas l'idée forcément de penser à ces sujets, quoi, tout simplement. Si je vous ai fait un petit peu réfléchir avec ces réflexions complexes, je vous propose un petit moment de détente afin que vous puissiez souffler un petit peu, que vous puissiez réfléchir, un petit moment musical, avant qu'on revienne sur la vulgarisation par la suite. C'était Imagine de John Lennon. Vous êtes toujours sur Graphite, la fréquence 94.9. Vous écoutez toujours les échos de l'innovation, l'émission qui décortique la science et leur impact, son impact sociétal. On parlait de vulgarisation scientifique. Jusque-là, on a expliqué pourquoi vulgariser. Hein, donc Camille a pu discuter de ça avec nous. On a même expliqué comment vulgariser avec les médias, etc. Donc, on a eu Amaury et Roxane qui ont beaucoup parlé de tout ça. On a beaucoup discuté entre nous. Et je crois que, de ton côté, Exaucé, tu as des informations sur les éventuelles limites de cette vulgarisation.
Bien évidemment, comme toute activité humaine, la vulgarisation scientifique présente également des limites. Tout d'abord, il faut reconnaître que la vulgarisation scientifique joue un rôle essentiel pour rendre les connaissances scientifiques accessibles à un large public. Cependant, cette même vulgarisation présente des limites qui peuvent affecter la compréhension et la transmission de l'information. C'est le cas de Wikipédia, source principale d'information sur Internet, qui est un site de vulgarisation car il est accessible à tous et se doit être compris par tous. Malheureusement, Wikipédia est un site où tout le monde peut écrire un article ou bien en modifier sans qu'il y ait des vérifications officielles. Ainsi, une fausse information peut être diffusée sur ce support. De même, il y a des cas où la vulgarisation semble être efficace, mais elle est en réalité contre-productive. C'est dans ce sens que le conférencier français Étienne Klein, lors de sa conférence à l'Institut Diderot au mois de novembre 2021, dans laquelle il s'interrogeait sur l'échec de la vulgarisation scientifique, dit avoir été interpellé par un philosophe fort connu qui était interrogé devant une salle comble par un journaliste. Et ce philosophe s'est mis à soutenir que le changement climatique ne doit rien à l'activité humaine, mais qu'il provient tout simplement du fait qu'à côté de notre univers existerait un univers parallèle dans lequel les fluctuations du vide quantique transmises par un trou de ver viennent réchauffer le cœur de la Terre. Le vocabulaire du philosophe montre qu'il s'était informé, qu'il avait appris des choses grâce à la vulgarisation, qu'il maîtrisait des termes tels que la fluctuation quantique du vide, trou de ver, univers bulle. Ce qui est choquant, c'est le sensationnalisme avec lequel certains vulgarisateurs ou médias exagèrent sur les découvertes scientifiques ou insistent sur les aspects spectaculaires au risque de détourner ou d'instrumentaliser le contenu scientifique. Retrouvez l'intégralité de cette conférence en vidéo sur www.institutdiderot.fr. Avant de continuer mon élocution, j'ai une question à vous poser, chers co-débatteurs. Pensez-vous que les vulgarisateurs sont soumis à l'obligation du secret professionnel ?
Alors, j'avoue que je ne m'étais jamais posé la question, mais finalement, j'imagine que oui, comme dans tout domaine, il doit y avoir un peu un secret. Ils sont pas, je pense qu'ils ne peuvent pas tout dire. Et c'est vrai que ça peut poser des questions, parce que finalement, est-ce que... Alors oui... Le but d'une vulgarisation, c'est pas de rentrer dans les détails, donc ça sert à rien de dire tous les détails. Mais est-ce que s'ils ont des secrets, ils pourraient pas volontairement nous cacher quelque chose ? Après, est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire ? Je sais pas finalement aussi.
Après oui, c'est vrai, comme tu as dit Roxane, les vulgarisateurs travaillent en collaboration avec des scientifiques ou sont des scientifiques. Ils travaillent aussi avec des entreprises et ont accès à des données confidentielles. Donc je pense qu'il est important d'être soumis à un certain secret professionnel pour ne pas compromettre, par exemple, les droits de propriété intellectuelle ou des stratégies commerciales. Et comme tu l'as dit, en effet... La vulgarisation vise en premier lieu à démocratiser le savoir en le rendant accessible à tous. Donc instaurer une obligation de secret pourrait en quelque sorte freiner cet objectif, je pense, en restreignant la diffusion d'informations importantes pour le grand public.
Je suis un peu d'accord avec ce que tu dis. De toute manière, n'importe qui travaille dans une entreprise se doit de respecter la confidentialité de celle-ci. Alors, même si on travaille en collaboration avec l'entreprise, pareil, on a le secret professionnel qui s'installe. Donc, forcément, le projet X, on n'a pas le droit d'en parler. Mais il y a aussi des exemples. Alors, moi, je suis rouennais, du coup, j'ai vécu Lubrizol. Donc, l'usine qui a explosé non loin de la Seine, grand nuage noir de fumée. Et les informations qu'on avait sur Lubrizol, c'était un petit peu l'effet... L'effet Tchernobyl, le nuage n'est pas dangereux, le nuage s'arrête à la frontière. Et du coup, il y avait cette manière de cacher l'information, ce secret un petit peu, même si des scientifiques avaient des réponses sur le sujet, pour éviter des paniques ou ce genre de choses, la décision avait été prise de ne pas communiquer grand-chose, du moins au début, sur le phénomène. Et je pense qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça, où des fois, il y a des secrets qui s'installent, même sur des sujets qui relatent de la santé, etc. C'est important, des fois, il y a certaines personnes qui gardent des secrets et qui ne vulgarisent pas les choses.
Voilà. Merci, chers co-débatteurs, pour vos interventions pertinentes et percutantes. Enfin, l'une des limites de la vulgarisation est sans aucun doute la perte des rigueurs scientifiques. En cherchant à être accessible, la vulgarisation exige souvent des simplifications, des concepts complexes pour les rendre plus compréhensibles. Cette simplification peut introduire des approximations, peut conduire à des approximations, voire des déformations de la réalité scientifique en omettant des détails ou des nuances essentielles. C'est d'ailleurs pour cette raison fondamentale que le chercheur Hugo Casanova, dans sa recherche dirigée par Lorna Eaton, professeur de l'Université de Montréal, critique les représentations de l'atome par un modèle planétaire dans lequel les électrons gravitent autour d'un noyau. Il convient de signaler que cette représentation découle du modèle atomique élaboré par le physicien Ernest Rutherford en 1911 pour expliquer les déviations d'ions et d'hélium projetées sur une feuille d'or de quelques nanomètres d'épaisseur. Ce modèle a été réprouvé quelques années après son introduction, il y a un siècle, car il ne décrit que partiellement et incorrectement les connaissances de l'époque. Mais l'image est encore très utilisée jusqu'à présent dès qu'il est question d'atomes. Vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que la représentation de Rutherford demeure omniprésente dans la presse des vulgarisations scientifiques, étant donné qu'il existe des modèles plus fidèles aux connaissances que nous avons aujourd'hui de l'atome? C'est tout simplement parce que la structure de l'atome a une nature probabiliste et ses éléments ne peuvent pas être décrits sans l'aide de l'abstraction mathématique, écrit Hugo Casanova dans son mémoire. En d'autres termes, les rares modèles de représentation qui réussissent à aller au-delà du modèle planétaire, tels que celles qui cherchent à traduire le caractère ondulatoire et diffus de l'électron, qui n'occupent pas des positions précises, sont très complexes et, pour ainsi dire, impossibles de comprendre pour un non-spécialiste.
Je te remercie, Exaucé, pour ces informations. Je te confirme, j'ai rien compris à cette histoire de déviation d'ions d'hélium projeté sur une feuille d'or. Mais du coup, ça prouve son argument, que quand on est non spécialiste, on ne comprend pas forcément. On a beaucoup discuté pendant cette émission, c'était riche en contenu, je vous remercie tous pour ça. On a pu explorer du coup le pourquoi, le comment de la vulgarisation, les éventuelles choses qui pourraient impacter cette vulgarisation, les impacts négatifs, les limites, finalement, hein, merci à Exaucé. Afin de conclure sur cette émission riche en débat et en information, on peut dire qu'aujourd'hui, on comprendrait mieux la vulgarisation scientifique, on sait pourquoi l'utiliser, comment on la diffuse, et on a pu explorer du coup ses limites, comme je l'ai dit. C'est grâce à vous. Je vous remercie. Un petit dernier message pour les auditeurs, peut-être
Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Pareil, merci de nous avoir écoutés. Bonne journée.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente journée.
Voilà, c'était le dernier message de nos les gens qui débattent avec nous,
co-débatteurs.
Co-débatteurs, merci. Je vous remercie d'avoir écouté. En tout cas, on vous remercie tous chaleureusement, hein, comme vous l'avez pu l'entendre. Vous étiez bien sur Graphite et vous avez écouté les échos de l'innovation. Au revoir.